L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de fin de semaine, un magazine qui va vous propulser tout droit dans votre week-end. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, on repasse en revue l'actualité de la semaine, une actu douloureusement marquée par la guerre en Israël. Nous parlerons aussi d'un sujet dramatique que nous pouvons constater ici dans les Pyrénées comme partout ailleurs, le sujet de la météo. Et puis nous recevons dans la seconde partie de l'émission l'association Jeunes et Roses dans le cadre d'Octobre Rose. C'est notre invitée Céline Carrère qui nous parlera du cancer du sein qui touche les jeunes femmes.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Et en studio, en ma compagnie pour ce magazine hebdomadaire, eh bien, j'ai la joie d'avoir mes deux chroniqueurs préférés, Gérard Croza et Andy Barégeau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et puis, bonjour à vous aussi, Céline Carrère, donc, qui êtes membre de l'association Jeunes et Roses, dont vous allez nous parler, vous allez nous expliquer la mission, l'objectif et le message de cette association. Bonjour et merci d'être ici.
Bonjour.
Alors, la première partie de cette émission, vous savez, est consacrée à un petit tour d'horizon de l'actu de la semaine. Évidemment, l'actu de la semaine est marquée par cette guerre en Israël, avec ce conflit qui a démarré samedi dernier, le 7 octobre. Alors, en réalité, il n'a pas démarré le 7 octobre, puisque c'est un sujet qui couvre, malheureusement, depuis longtemps, depuis toujours, j'allais dire, Gérard Croza. Ce sujet du conflit en Israël, c'est un peu un sujet qui est vieux comme le monde. C'est un petit peu déjà l'héritage que nous pouvons lire dans la Bible, déjà.
Oui, je ne suis pas historien du tout, hein, mais c'est sûr que le peuple juif est un peuple qui a été très, 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 très longtemps et qui est toujours opprimé, d'une certaine manière, ou au moins traqué de tous les côtés. C'est une honte d'être juif, certains pensent, et malheureusement, dans les années 40, on a bien vu qu'il fallait exterminer à tout prix les juifs. C'est un peu aussi ce qui est en train de se passer maintenant, puisque le désir quand même est aussi le désir profond, ils n'y arriveront pas, mais le désir profond, c'est quand même aussi d'exterminer le peuple juif. Alors pourquoi les juifs, quoi? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Pourquoi leur en vouloir autant? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est vrai qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont encore le pouvoir. Ils font certainement des bêtises politiques. Bon, on peut ne pas être d'accord avec un gouvernement en Israël, enfin le gouvernement actuel ou le gouvernement passé. Ça, c'est une chose, mais c'est pareil dans tous les pays. Mais de là à vouloir en faire une guerre raciste, c'est quelque chose de désolant, d'autant plus que c'est avec, dans toute son horreur, on ne peut que répéter ce qu'on entend partout, mais des enfants décapités, des femmes décapitées, des personnes âgées, des hommes décapités ou simplement tués, c'est horrible.
Et puis c'est une horreur qui touche la population des deux côtés, bien sûr en Israël, mais dans la bande de Gaza aussi, il y a une population qui souffre.
Et dans la bande de Gaza, il y a aussi une population qui souffre. Alors c'est ça, moi, qui me choque en même temps, hormis l'événement proprement dit, mais c'est le fait qu'on est en train de vivre dans un monde où je dois d'abord détruire l'autre. Je dois chercher à détruire l'autre.
Et au lieu de chercher la paix.
Au lieu de chercher la paix, au lieu de chercher une négociation, non, je vais détruire. Et c'est vrai que les Juifs, à un moment, enfin, Israël, pas les Juifs, Israël. Israël, à un moment aussi, a occupé et occupe encore. Il y a des villages d'occupation qui sont là où les Palestiniens ne peuvent pas vivre non plus. Donc, comment arriver à trouver une certaine justice? Et la réflexion que je me fais, alors elle peut paraître comme ça un peu disproportionnée, mais je crois qu'on est en train de vivre dans un monde où, au lieu d'essayer de le faire, si on pouvait déjà commencer à l'empêcher qu'il se défasse. C'est pas de moi, hein?
Ah, c'est de qui?
C'est d'Albert Camus, dans son discours de prix Nobel, il y a 70 ans.
C'est ce que je vous disais, on a l'impression qu'on en est toujours au même point, qu'on n'avance jamais. Et puis en plus, que la barbarie s'ajoute toujours à la barbarie, qu'on répond à la barbarie, à l'horreur, par la barbarie et l'horreur.
Alors il y a la grosse barbarie, si je puis dire, celle entre les pays, les guerres, on ne va pas revenir sur l'Ukraine, mais c'est le même problème, etc. Mais c'est aussi, on vit aussi dans un monde qui est un monde tendu. Vous prenez votre voiture, il y a nécessairement une relation de tension par rapport à l'autre, parce qu'il passe devant, parce qu'il vous brûle un feu rouge... On est voilà, dans un monde qui est en train de se défaire un peu. Et prêtez-moi deux secondes juste pour expliquer ce que disait à propos du Covid le cardinal Cantalamessa au pape. Alors ça remonte. Mais comment il avait expliqué le Covid ? Et je crois qu'on pourrait expliquer un peu le monde de la même façon. Le cardinal expliquait cela en disant... Lorsque l'artiste peintre a peint les murs de la cathédrale Saint-Paul à Londres, il était sur un échafaudage. Et pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'il était en train de peindre, il reculait sur son échafaudage. Et un de ses collaborateurs, qui était plus bas, se disait « il va se casser la figure, il va tomber, il va mourir. Si je crie « attention, faites attention, vous allez tomber », ça va lui faire... il va avoir peur et il va à nouveau... peut-être tomber, une autre raison de tomber. Qu'a fait le collaborateur ? Il a trempé un pinceau dans la peinture et il a éclaboussé ce qu'il avait fait au mur. Je pense qu'il a dû rien lui manquer après. Ça, d'accord. Mais il a sauvé le peintre, parce que le peintre a dû se redresser pour aller nettoyer. Et alors lui expliquait le Covid en disant « mais le Covid, c'est toutes ces éclaboussures qu'on a dans le monde, comme ça. » Et aujourd'hui, c'est pareil. Je crois qu'on a des grosses... éclaboussure, et c'est pas de la peinture bleue, c'est la peinture de sang que l'on retrouve. C'est les relations, tout est une relation de conflit en permanence avec les gens. Si on pouvait revenir à des relations un peu d'abord de paix, bon, dire éventuellement je suis pas d'accord, on a le droit. Enfin, il y a plusieurs autour de cette table, vous êtes plusieurs parents, ça vous arrive de dire à vos enfants je suis pas d'accord avec le choix que tu fais. Ça viendra parce qu'ils sont ados. Mais voilà, je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, je t'aime quand même. Ça m'intéresse ce que tu penses.
Oui, mais alors, quand on vous entend Gérard Crozat, on se dit, c'est très beau ce qu'il nous dit, ce Gérard Crozat, mais c'est du rêve. Là, on est dans une toute autre mesure. Déjà, une semaine après vraiment l'explosion de ce conflit, plus de 2500 morts de part et d'autre, hein, en comptant les morts de part et d'autre, sans compter les blessés. Vraiment, des tortures, des enlèvements, des otages. Enfin, on se dit qu'en fait, c'est vraiment un cycle de barbarie. Et puis, j'ai envie de dire, même à cette barbarie, s'ajoute encore même la barbarie de la facilité de partager les images. On fait des horreurs, on les filme, on les partage. Cette barbarie, en fait, elle a peut-être toujours existé, mais aujourd'hui, c'est peut-être encore voyeurisme. Pire. Voilà, cette espèce
c'est
de voyeurisme.
Où on montre, effectivement, alors on dit écarter les enfants, c'est formidable, parce qu'en disant ça, tout le monde va venir devant l'écran pour regarder ce que c'est. C'est cette horreur. Et ça, c'est... Alors, je ne vais pas critiquer les journalistes, parce que j'en ai un qui est à ma gauche.
Mais justement, tout le monde n'est pas journaliste. Et tout le monde s'investit, reporter de guerre, journaliste, parce qu'il a un smartphone. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Andy Barigeau ?
Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Je suis très mal placé pour en parler. Je défendrai ma profession qui s'improvise pas, déjà, parce qu'elle réclame ce qu'on parlait tout à l'heure du recul, de l'objectivité, ce dont force est de constater tout le monde ne peut pas disposer dans cette question-là, puisque c'est un problème qui est quand même d'une sensibilité incroyable et qui n'a jamais été résolu, en fait. Donc, forcément qui se creuse, puisqu'il n'est pas résolu, ben, il s'envenime, hein, c'est le principe. Moi, j'ai juste quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est un philosophe, je crois, qui a dit ça. Il a dit, faut surtout pas regarder ça comme un match de foot, cette histoire-là. Et c'est ce que tout le monde, on peut pas être pour les uns, contre les autres.
Ouais, enfin, c'est ça.
Malheureusement, c'est un peu l'abrutissement de notre société qui se révèle là-dedans, c'est qu'on ne peut pas réfléchir en fait. On ne peut pas penser, on ne peut pas nuancer, on ne peut pas ne serait-ce qu'écouter sans être d'accord, sans être contre, juste écouter, se positionner, prendre un peu de recul. Et moi, c'est ça qui m'a fait un petit peu râler, parce que c'est ce qu'on voit dans notre société aujourd'hui, où on demande d'avoir un avis tranché, d'être pour, d'être contre.
Alors que là, en fait, c'est tellement complexe d'ailleurs.
Moi, le premier, pourtant, je pense que j'essaie de me renseigner un peu, je vais pas dire plus que les autres, mais j'essaie au moins de me renseigner pour essayer d'avoir un avis un peu tranché que j'arrive même pas à avoir et un peu éclairé encore moins. Mais c'est complexe, en fait. C'est ça qui est la complexité de ce monde. Ben aujourd'hui, à l'heure de l'instantanéité, des images dont on est abreuvé, on a tout de suite, ben la complexité, on l'a plus en fait, on la saisit plus.
Ouais.
Et c'est un problème là dont on parle qui est extrêmement complexe et forcément qui est réduit là aujourd'hui à un traitement le plus abject, malheureusement, parce que ce sont des faits abjects en fait. Et quelque part, on prend plus le temps de se poser, en fait. Mmh. Et c'est ça qui nous manque. Il manque du temps. Alors que j'ai envie de vous dire, on est sans doute la génération qui en a le plus de temps. Nos parents n'avaient pas forcément autant de temps. Mmh. Et on n'en bénéficie pas, en fait. Et où on ne le met pas à profit, je ne sais pas. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est la faute aux autres? Comment ça se passe? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque. Et bon, c'est là où pour revenir à la question des journalistes, c'est vrai que nous, parfois, quand on traite un sujet, on essaie d'en prendre le temps nécessaire.
Et oui.
Ce que tout le monde ne prend pas. Et voilà, c'est. Mais bon, c'est un imparfait.
Bon, on ne va pas régler le problème de ce conflit israélo-palestinien aujourd'hui, ici, dans cette émission. Mais en tous les cas, on peut s'entendre sur le fait que, de toute façon, c'est une horreur absolue. Et c'est une horreur aussi bien pour les Palestiniens que pour les habitants d'Israël qui font face à des massacres absolument affreux.
Et ce qui rend les relations d'autant plus difficiles que c'est alimenté par l'abject.
Oui,
l'abject qu'a subi un peuple à une époque, l'abject qu'a subi le même peuple, l'autre peuple, ou le même, je ne sais plus, parce que c'est sur le même territoire.
Oui, ça fait
et les deux ont tellement souffert que l'abject sécrète la rancœur.
Oui, moi, il y a un chiffre juste qui m'a interloqué, c'est quand même la bande de Gaza, 2 millions d'habitants, c'est grand comme le Val d'Adour. Juste pour s'imaginer ça, en fait, c'est la moitié des Hautes-Pyrénées, ou peut-être même pas, c'est 2 millions d'habitants.
Et aujourd'hui, 2 millions d'habitants qui sont privés d'électricité,
voilà,
d'eau, de nourriture.
C'est ça, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne peut pas juger de quelque chose qu'on a du mal, même ne serait-ce qu'à se figurer, en fait, à s'imaginer ça, 2 millions d'habitants sur un territoire qui est même pas grand, je crois, comme le tiers des Hautes-Pyrénées.
Ouais.
Voilà, on est 250 000 dans les Hautes-Pyrénées, voilà, bon, c'est juste ça, en fait.
Allez, on passe à un second sujet, un sujet qui vous tient à cœur et dont vous vouliez parler
qui ne pèse pas beaucoup aujourd'hui à l'heure de l'actualité, mais qui finalement devrait prioritaire.
Oui, parce que j'allais dire, c'est un sujet léger, mais en fait, non, c'est pas un sujet léger.
On parlait tout à l'heure, vous disiez, elle m'a échappé, votre phrase, mais elle m'a fait parler que les gens ont besoin de détruire. Mais la chose qui va les détruire à tous, malheureusement, c'est l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nos têtes, qui qu'on soit. Qu'on soit palestinien, israélien, bigourdan, on va être tous mangés malheureusement par un phénomène dont on s'alarme pas vraiment, puisque là on se réjouit qu'il fasse beau. Moi le premier, je me réjouis qu'il fasse beau, mais je m'en réjouis plus en fait, parce que quand je me dis qu'il a pas plu depuis un mois, qu'on est quand même bientôt au 15 octobre, qu'on se retrouve avec température à 30 degrés, qu'on a la cascade de Gavarnie qui est notre symbole, notre colosse, comme disait Hugo, et ben qui est aujourd'hui à sec. Enfin voilà, c'est stop quoi. L'urgence, la priorité, au lieu de s'entretuer pour un dieu, pour quoi que ce soit, faudrait au contraire réfléchir à ça en fait. L'urgence, elle est là quand même. Personne s'en fait. Tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde se dit oui, mais qu'est-ce que je pèse là-dedans? C'est sûr, mais moi je suis plutôt adepte de la politique des petits pas. Je me dis que si moi je fais au lieu d'aller chercher le pain en bagnole, j'y vais en vélo, j'aurais fait elle pèsera pas lourd par rapport aux émissions que peuvent envoyer les Chinois, les Indiens à travers la planète, mais Voilà, je pense qu'il faut que chacun prenne conscience qu'on peut être actif aussi. Il faut arrêter de compter sur les voisins pour nous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je pense qu'il faut être très proactif là-dessus.
Vous trouvez qu'on ne l'est pas assez
ou clairement pas, ouais. Mais nous tous, nous, à notre échelle, de pas faire des efforts. Qui sont pas des efforts, en fait, parce que quand je prends mon vélo, c'est pas un effort, il fait beau, justement, que j'en profite, justement, de ça, pour essayer à la fois de résoudre le problème et d'en profiter, donc quelque part, c'est... Mais pour ça aussi, ça demande peut-être aussi un minimum de prise de conscience à l'échelle au-dessus, de nos élus, par exemple, pour faciliter le vélo, que nos gosses puissent faire du vélo en sécurité, et pas se dire, ouais, mais est-ce que là, je peux le laisser partir tout seul, est-ce que ça craint pas? Voilà, ce sont...
Et puis c'est vrai que, contrairement, par exemple, à ceux qui souffrent des conflits dont on a parlé juste avant, nous, on a le temps quand même. On a le temps de prendre un petit peu de notre temps pour changer nos petites habitudes et faire un petit pas, chacun.
C'est ça. C'est la parabole du colibri, que tout le monde connaît, l'incendie dans la forêt.
Le colibri.
Du colibri, oui, je me disais, mais qu'est-ce que c'est qu'un colibri? C'est les carrières aussi se demander, mais un colibri, mais il vit où, ce Gérard Crozat?
Je viens de créer une nouvelle race, voilà.
Moi, je n'osais rien dire.
Et nos auditeurs seront fiers d'avoir participé à cette création du colibri.
Et on voit Philippe Subercaz à la technique, de l'autre côté de la vitre, qui rigole bien aussi.
Je ne sais pas s'il rit ou s'il se moque de moi, en fait, mais...
Donc le colibri, qu'est-ce qu'il fait, le colibri?
Le colibri qui prend dans son bec un peu d'eau et puis qui va poser cette eau, et les autres animaux lui disent, mais c'est ridicule, qu'est-ce que tu crois? Oui, mais moi je fais ce que je sais et ce que je peux faire.
Oui.
Et moi je le fais. C'est ça.
C'est ça, et chacun peut faire un petit pas. On marque une pause, on écoute Kenji Girac, préparé par Philippe Subercaz, et on se retrouve juste après avec nos invités.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine, j'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte, j'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi? Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi? Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la paix. Protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu, le feu. No puedo luchar contra el viento. Que yo siento, quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toda mi canción. Hecho un fuego ardiente, ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Dès que vienne l'inverse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Et Céline Carrère est notre invitée cette semaine dans le magazine L'heure de pointe. Bonjour Céline Carrère, rebonjour.
Rebonjour.
On ne vous a pas trop entendu dans la première partie de l'émission, mais là on vous donne vraiment la parole. Vous allez nous présenter l'association Jeunes et Roses, hein, dans le cadre d'Octobre Rose. Nous intéressons aujourd'hui au cancer du sein qui touche les jeunes femmes. Et c'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Alors peut-être d'abord pour commencer, Jeunes et Roses, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom d'association ?
Alors, c'est une association qui a été créée en avril 2017. Elle est née de la rencontre de deux patientes dans les couloirs de l'hôpital de Bordeaux. Elles étaient en chimiothérapie toutes les deux. Et en fait, elles ont échangé et elles se sont rendues compte qu'il y avait donc toutes les femmes qui étaient atteintes d'un cancer du sein avaient les mêmes problèmes, mais elles n'avaient pas les mêmes problématiques. Notamment les enfants en bas âge, la carrière professionnelle, le conjoint, la grossesse et l'allaitement, parce qu'il y a aussi des dames qui tombent malades pendant la grossesse et l'allaitement. Donc elles ont fait ce constat-là et elles ont voulu créer une association pour les jeunes femmes, donc de 20 à 45 ans, pour qu'elles puissent s'identifier et puissent se réunir entre elles. Donc il y a plusieurs missions, il y a trois missions dans l'association. Donc, on s'attache à trois missions. D'abord, il y a les tétonnantes. Donc, on réunit les personnes qui sont atteintes de cancer du sein. On fait des apéroses, on appelle ça des apéroses, où on se réunit entre nous, on échange, on rigole, on parle du cancer du sein, mais pas que, du coup, parce que...
C'est de la vie, quoi. Vous de la vie. De la vie.
Voilà, on rigole, voilà, on passe des moments ensemble, on s'octroie des moments que pour nous. Et puis, c'est vrai que, du coup, on se comprend mieux, parce que ce qu'on vit, ben, on a toutes vécu la même chose. Toutes les ambassadrices, donc on est 80 en France, on a toutes été touchées par un cancer du sein. Donc, c'est une association qui est menée par des patientes, pour des patientes, en fait. Donc, on se réunit régulièrement. On essaie quand même d'être assez réactive. On a un groupe WhatsApp où on échange, où on peut poser des questions. Quand on est face à une problématique, quand on perd les cheveux,
par rapport à la chimiothérapie. Donc, vous accompagnez aussi les personnes qui sont en plein dedans, en plein traitement.
C'est un soutien, en fait. On est là pour les tétonnantes. Voilà, cette mission, c'est accompagner les personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Ensuite, il y a une autre mission qui s'appelle l'alerte rose. Donc là, par contre, c'est par rapport aux professionnels. On rencontre des professionnels, on leur présente une petite vidéo sur une personne. Donc, on suit une personne qui est atteinte d'un cancer du sein pendant la grossesse et suivi par l'allaitement. Donc c'est pour alerter les professionnels en fait sur l'augmentation des personnes atteintes de cancer du sein et jeunes surtout. Des jeunes femmes, il y en a de plus en plus. Donc
10% des cancers du sein sont diagnostiqués chez les femmes qui ont moins de 40 ans.
C'est ça.
Et ça, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de cette tranche d'âge-là.
Voilà. Et puis elles sont surtout dans le cursus normal. Elles ont leur visite chez le gynécologue, mais elles ne sont pas, la mammographie ne se fait pas pour des personnes jeunes. Donc du coup, souvent le diagnostic tombe un petit peu tardivement.
Et comment on peut faire ça ? Ça veut dire qu'il faut le fameux dépistage qu'on reçoit à partir de 50 ans, il faudrait le faire plus tôt ?
Dès qu'on a un doute, le moindre doute que l'on a, il faut aller consulter. Il faut consulter.
Et le doute, il peut venir de quoi ?
Alors, si on sent une petite grosseur ou si on voit que le sein change d'aspect, dans l'association justement, on a fait des présentations où on voit dans une boîte, il y a plusieurs fruits, et alors on voit les citrons, on peut voir en fait comment le sein peut changer en fonction des maladies qu'il peut y avoir.
Est-ce que c'est encore tabou ?
Oui, le cancer du sein est tabou, et justement l'association milite dans ce sens, mmh. pour pas que ça soit tabou, que les gens puissent en parler, que ça devienne, quelque chose, l'autopalpation, que ça devienne quelque chose de régulier, que les femmes, c'est pour ça que du coup on a aussi mis en place une mission qui s'appelle le Télététon, et en fait on va à la rencontre des jeunes, donc dans les lycées, dans les entreprises, pour leur apprendre l'autopalpation. Donc on le fait aussi bien avec les garçons qu'avec les filles, parce qu'on s'est rendu compte aussi que souvent c'est le conjoint qui se rend compte d'une modification.
C'est ce que j'allais dire, il y a le rôle du conjoint aussi, parce qu'il y a parfois peut-être, je vais pas dire un déni, mais on se refuse peut-être quelque chose, et c'est vrai que peut-être parfois la parole du conjoint peut aider à se dire, ouais, va le faire, c'est pas non plus, même si c'est compliqué pour nous, ouais, de se mettre à votre place, on n'y arrivera jamais, mais c'est vrai qu'on peut avoir peut-être un petit faire le pas pour vous aider, quoi.
C'est ça.
Et puis le rôle du conjoint dans l'accompagnement après du traitement doit être important, chez les femmes qui sont encore actives, qui ont des enfants en bas âge, quel rôle joue ou peut jouer le conjoint?
Alors, c'est vrai que pour eux, c'est compliqué, parce qu'en fait, les personnes qui sont malades sont très entourées. Nous, on a créé l'association pour aider les femmes, mais quand on se réunit, on fait aussi des réunions avec les maris et les enfants, parce que c'est un tsunami pour la personne qui est malade, mais c'est aussi un tsunami pour toute la famille.
Ouais.
Proche comme moins proche, c'est vrai qu'il y a des gens qui quand on dit, quand même moi, j'ai annoncé que j'avais un cancer du sein, mais non, pas toi. Ben si, en fait, ça peut tomber sur tout le monde. Alors, contre le cancer, on ne peut pas, comment expliquer, on ne peut pas lutter contre le cancer. Si ça nous tombe dessus, ben voilà, ça peut nous tomber dessus, mais on peut quand même avoir une action, dans le sens où si on se fait dépister, si on s'en rend compte de bonne heure, les traitements sont moins lourds, et du coup on a moins d'effets secondaires, et ça altère un petit peu moins la vie, mais on pourra pas...
Continue.
Ouais, le plus tôt, c'est le mieux, quoi. C'est toujours ça. En fait.
Oui, voilà.
Ça permet d'en avoir plus
exactement.
Après.
Exactement. Plus tôt, on est dépisté, plus vite on est pris en charge et plus vite on est soigné.
Voilà. En tous les cas, dans votre association, donc Jeunes et Roses, on remarque aussi que un de vos points forts, c'est la joie. Alors, ça peut paraître un petit peu
voir l'humour.
Voilà, parce
que
vous avez
dans la nomination.
Même si on va sur votre site Jeunes et Roses, on voit que la présentation de vos missions. Est formulée de manière un petit peu décalée, humoristique. Ça, bien sûr, on comprend que c'est un souhait. La joie, l'humour, c'est un médicament contre le cancer ?
Oui, c'est un médicament. Et puis, c'est vrai que par rapport à la communication, on essaie de surfer sur les codes de la jeunesse, parce que du coup, si on veut les femmes se sentent concernées et qu'elles nous contactent quand elles sont malades, il faut que nous, on soit aussi à même de répondre à leurs besoins. Après, oui, la maladie est là, mais nous, le message qu'on veut faire passer, c'est que la maladie est là, oui, c'est difficile à vivre, mais il y a la vie, voilà. Ouais. Le principal, c'est ça, il y a la vie, et on est là pour montrer que on peut continuer à vivre avec des enfants, on peut continuer à avoir ses amis, on peut, voilà. C'est un message vraiment un message d'espoir, et puis voilà, on veut pas que ça soit tabou, en fait. On veut parler de, on parle de choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Voilà.
Bon, déjà, Octobre Rose, maintenant tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est qu'Octobre Rose. On sait, quand on voit les parapluies roses, que tout de suite tout le monde pense au cancer du sein, et tout le monde a en tête ce dépistage nécessaire. Mais c'est vrai que ce qui est encore assez tabou, c'est ce cancer du sein chez les jeunes femmes.
Oui.
Gérard Croza, vous aviez, je crois, une anecdote aussi à raconter.
Oui, avant ça, je me disais, vous devez avoir surtout, le souci de ne pas être pris que pour des patientes, quoi.
Oui, c'est ça.
Comme des femmes.
Exactement.
Avec un pépin, d'accord, mais pas être simplement quelqu'un qui est entre deux chimios ou entre... entre les pattes d'un médecin.
Oui, puis on veut rester femme quand même. C'est vrai que c'est compliqué. Et avec l'association, on fait régulièrement. Donc là, on fait des visios où on apprend aux femmes à se redessiner les sourcils quand elles en ont plus, la colorimétrie pour leur apprendre comment s'habiller, parce que du coup, quand on a plus de cheveux, en fait, on sait plus comment s'habiller, comment se maquiller. On est perdu. Donc nous, on essaie justement de leur donner envie de s'occuper d'elles. On fait aussi des ateliers d'hydratation pour voilà, parce que c'est vrai que la peau, elle charge pendant les traitements. C'est quand même... C'est tout le corps. C'est tout le corps qui est...
Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce temps de traitement?
Alors, l'acceptation. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. C'est l'acceptation, c'est accepter de devenir malade, en fait. De devenir malade, et puis c'est les traitements, c'est le fait de changer d'apparence, parce que du coup...
Même les ongles, ça tout devient... le corps change.
Ah oui, ouais. Oui, tout le corps change. Et puis on devient malade aux yeux des autres aussi. Et ça, c'est difficile, parce que nous, on veut avancer, mais quand on voit quand les gens nous regardent... On voit bien qu'ils sont tristes pour nous, et justement, nous, on essaie de leur dire « Non, mais ça va aller, on est pris en charge, voilà, ça va aller. »
Et il y a ce mot qui terrorise, c'est le mot chimio, on l'entend souvent. Oui. J'ai un cancer, mais j'ai pas de chimio.
C'est ça.
C'est le...
Parce qu'en fait, la chimiothérapie, quand on nous met sous chimiothérapie, oui. c'est pour nous soigner.
Bien sûr.
Et en fait, nous, quand on nous annonce qu'il y a de la chimiothérapie, on se sent pas malade. Et en fait, le fait d'avoir de la chimiothérapie, on perd les cheveux, puis on est très malade quand même. Donc,
Et ça se voit.
Et ça se voit. Donc, c'est là que c'est, on a du mal à accepter la chimiothérapie parce que, alors, il y en a qui, au contraire, quand elles ont la chimiothérapie, elles se disent, ouais, chouette, c'est bon, j'ai la potion magique, ça va vraiment tout nettoyer. D'autres, comme moi, ont plus de mal à l'accepter. Ça a été sur un laps de temps, mais après, j'ai bien compris que c'était pour me soigner. Mais c'est difficile parce que la maladie devient visible, en fait.
Aujourd'hui, vous êtes encore en traitement ?
Oui, alors je suis encore... Les traitements lourds sont terminés, mais je suis encore en traitement. J'en ai pour 5 ans. J'ai un traitement encore pendant 5 ans avec des effets secondaires encore différents. Le problème, c'est qu'on a des traitements, mais les traitements ont des effets secondaires différents à chaque fois. Donc,
et longs, parfois ?
Oui, oui, longs.
Vous nous disiez, en préparant cette émission, l'importance et la place de votre famille, notamment de votre fille, je crois, quand vous avez traversé cette période. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui.
Prenez votre temps.
Voilà, donc oui, la famille... Pardon, c'est très très important parce que en fait on souffre et puis on voit qu'eux aussi souffrent en fait, ils nous voient, et alors du coup c'est vrai que moi mon leitmotiv c'était de dire ça va aller, c'est passager, donc oui ça, ils ont été très très courageux, j'ai une famille en or, j'avoue que j'ai une famille en or, ils ont été tous très très présents. Ma fille aînée a été très courageuse puisqu'elle m'a rasé la tête quand j'ai commencé à perdre les cheveux. Elle m'a dit, bon, allez, maman, ça suffit.
Elle avait quel âge ?
Elle avait 12 ans. Ouais. Elle a dit, on va pas regarder les cheveux tomber. Maintenant, on prend la tondeuse et on rase. Donc, ça a duré une heure et demie parce qu'elle s'est bien amusée. Je suis passée par toutes les coupes. J'avais les cheveux au carré. J'ai eu des coupes très rigolotes jusqu'à ce qu'on arrive à raser la tête. Et la réaction de la toute petite quand elle m'a vue, elle m'a dit « Oh, mais c'est trop beau, on dirait Christina Cordula !» Donc voilà, c'était des yeux d'enfant. Et voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Elles ont été fortes toute la durée du traitement. Elles ont, la grande n'en a pas beaucoup parlé. La petite a voulu expliquer à ses copains ce que c'était, ce qui allait se passer. En fait, elle ne voulait pas qu'ils soient choqués de me voir avec un bonnet. Elle ne voulait pas avoir de questions. Donc, c'est elle qui a demandé à la maîtresse si elle pouvait expliquer à ses copains ce qu'on traversait. Et du coup, ça a été libérateur pour elle. Et du coup, je pense qu'elle a mieux vécu.
Donc, c'est incroyable le courage aussi des enfants et la place qu'ils ont dans ces moments-là. Ouais.
Oui, puis elles ont toujours été... Elles ont toujours été très très présentes et puis voilà, c'était dès que je me maquille ou que je me mettais un bonnet, maman t'es jolie, voilà, ça reste toujours des yeux d'enfant.
C'est les premiers thérapeutes.
Oui, tout à fait.
Certainement.
Tout à fait.
Et l'époux aussi, j'imagine.
Oui, alors voilà, du coup je parle beaucoup de mes filles parce qu'on a parlé des enfants, mais mon mari aussi a été présent. Après c'est difficile, tout le monde ne réagit pas de la même manière, c'est un taiseux, donc c'est pas évident de montrer qu'on est touché. Donc lui aussi c'était toujours allez, on va y aller, mais quelque part, c'est difficile parce qu'il était aussi inquiet. Il devait montrer à personne qu'il était inquiet. Donc, c'est là que c'est compliqué. Pour les accompagnants, c'est très difficile parce qu'on ne leur demande pas, en fait, eux, comment ils vont.
Et oui, c'est
les
ça.
Gens nous appellent à nous pour savoir comment ça va, mais les conjoints, il faut que ça aille, quoi. Ils sont là pour tenir la maison, donc...
On en revient souvent à la même chose, c'est l'écoute, quoi. L'écoute de l'autre,
ouais,
et à savoir prendre 5 minutes à un moment pour juste parler et recevoir ce que l'autre a à dire aussi, donc c'est important. Et c'est là, peut-être, où Octobre Rose aura réussi quelque chose, je trouve, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on en fait beaucoup. Malheureusement, c'est peut-être... Et peut-être au risque de dénaturer peut-être le message de départ, mais ce qui est bien, c'est que depuis Octobre Rose, on voit qu'avant, le cancer, c'était la mort, quand même.
Et aujourd'hui, grâce à Octobre Rose, le cancer, c'est aussi la vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est... C'est un rebasculement dans l'esprit des gens qui a été très fort, je trouve. Parce que, voilà, avant, malheureusement, le cancer, c'était la fin.
C'est ça.
Et aujourd'hui, on voit que, non, ça se soigne.
Certains se soignent, c'est un combat
dans lequel on peut tous avoir un rôle peut-être à jouer, les amis, parce que voilà, on est tous concernés. Et je trouve que c'est la force d'Octobre Rose, c'est ça, c'est ce retournement-là dans l'esprit des gens, je trouve.
Oui, alors du coup, Octobre Rose, c'est très très bien. C'est pour rappeler à la sensibilisation. Après, c'est vrai que du coup, on a l'impression que le cancer, ben maintenant, c'est... Voilà, c'est... Moi, on me dit, oh, mais ça va, ça se soigne un cancer. Oui, ça se soigne, effectivement.
Enfin,
mais
faut le traverser quand même.
Le chemin est très très compliqué, il y a quand même pas mal d'embûches. Donc oui, ça se soigne. Et nous, justement, avec l'association, on est là pour accompagner les jeunes femmes pour justement que ça soit moins compliqué, un petit peu moins compliqué.
On se redécouvre aussi. Est-ce que vous-même, vous avez changé le regard que vous aviez sur vous? Vous avez évoqué tout à l'heure la difficulté de porter un regard positif sur soi quand le corps change, etc. Mais quand on a traversé le combat, on doit aussi avoir une dose de fierté quand même.
Oui, alors oui, on a une dose de fierté, effectivement. Après, on a beaucoup de résilience, hein, parce que du coup, il faut accepter. Hein, c'est sûr que de se regarder, même les cheveux repoussent. Oui, ils repoussent en bataille, ça ressemble à rien. Là, avec les traitements, il y a de la prise de poids. Il faut s'accepter tel qu'on est. Mais oui, je me dis, on a réussi à passer ça. Ça nous a renforcé. Ouais. Ça a renforcé la famille. On a vécu un tsunami, vraiment un tsunami. Et moi, la première chose, quand on m'a dit que j'avais un cancer, j'ai pas pensé à moi, j'ai pensé à mes filles, en me disant, mais elles sont trop petites pour vivre ça. Et du coup, le leitmotiv, ça a été de dire, il faut rester positif et on avance et ça va aller. Ça va aller. Voilà, la phrase, c'était ça va aller.
Vous êtes rayonnante.
Merci.
Gérard, merci. Une petite anecdote pour finir, parce que vous aviez une très belle histoire à nous raconter.
Ah, mais c'est une histoire vraie, oui, qui s'est produite pendant le Covid, toujours ce Covid. Une dame que je connais a été opérée, a subi l'ablation d'un sein, et on sait combien cette opération est douloureuse, à la fois physiquement, mais moralement aussi, d'autant plus qu'elle était coupée de tout, puisqu'elle téléphonait avec son mari qui était au bas du mur, à l'extérieur. Il ne pouvait pas rentrer dans la clinique, et il communiquait par téléphone et il se faisait des gestes. Et la première nuit a été horrible, elle ne pouvait pas dormir, elle ne savait pas à quoi penser, on peut l'imaginer facilement. Et tout d'un coup, elle a entendu le cri d'un bébé. Elle a dit, mais ce bébé, c'est extraordinaire, ce que ce bébé l'a calmé, qui lui a rappelé peut-être la vie, tout court. La vie qui était en train de naître, puisque c'était effectivement un bébé qui venait de naître. Et lorsqu'elle a partagé cela avec l'infirmière le lendemain, l'infirmière a eu la bonne idée de le dire au couple du bébé. Et le papa est venu la saluer avec le petit. Et là, ça a été un ravissement. Et aujourd'hui, 3 ans après, elle continue à lui envoyer des cadeaux à Noël.
C'est la vie, c'est la force de la vie.
C'est la force de la vie, oui. C'est la force de la vie.
Voilà, on retient un message. Le dépistage est vraiment très, très important, mesdames. Prenez rendez-vous chez votre gynécologue. Demandez une mammographie, demandez le dépistage du cancer du sein, parce que ça peut vous sauver et ça peut vous éviter cette traversée. Un dernier mot, Céline Carrère.
Oui, je voudrais juste quand même souligner qu'on est partenaire de la Ligue. On est quand même en association avec eux. On se spécifie avec les jeunes femmes de 20 à 45 ans, mais on est partenaire de la Ligue. Si vous voulez nous retrouver, donc si des personnes ont envie de nous retrouver, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Vous pouvez également envoyer un mail à l'association. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les manifestations d'Octobre Rose. On est présente dans le 65.
Voilà, alors n'hésitez
l'adresse
pas.
L'adresse mail, je la communique peut-être.
Alors on va communiquer l'adresse du site jeuneetrose.fr. Il y a toutes les indications, les contacts.
Tout à fait, il faut envoyer un mail.
La mission de votre association et puis les moyens de vous retrouver pour les personnes qui traversent cette épreuve du cancer. Merci beaucoup Céline Carrère d'être venue nous présenter cette association Jeune et Rose. Merci à vous Andy Barrejo, Gérard Croza. La semaine prochaine dans l'heure de pointe, chers amis auditeurs, vous retrouverez David Torchala et ses chroniqueurs.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.